C'est autant voilà, l'image à la musique que la musique à l'image. Et nous sommes deux sœurs jumelles. Voilà. C'est donc à Rochefort et c'est en hommage à Demi et à Legrand.
Et c'était donc votre ambition de vraiment rassembler ces sœurs jumelles que sont la musique et l'image. Parce que vous, est-ce que vous avez des exemples? Là, vous nous avez donné des beaux exemples de musique et d'image qui vont très bien ensemble. Mais vous pensez que parfois, dans les films notamment, la musique est mal employée, n'est pas au service de l'image. Est-ce que vous avez,
Et pendant longtemps, moi, j'ai produit. Alors ça se sait peu, mais comme comédienne, et je me rendais compte à quel point c'est pas forcément évident pour un réalisateur, pour un créateur, d'avoir un autre auteur, un autre créateur qui vient et qui va intervenir. Et moi, comme productrice, je me dis, mais en fait, il n'existe pas vraiment un endroit où ils pourraient se rencontrer. Donc je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être un moyen de se voir de manière un peu plus transversale tous et de partager ça avec le grand public.
Oui, parce que ce n'est pas seulement des rencontres professionnelles entre réalisateurs et musiciens, par exemple. C'est aussi l'occasion pour le grand public de participer. Quelle est l'ambition pour vous au sujet du grand public?
Et ben alors, au début, tout le monde disait, mais c'est quoi? On ne comprenait pas forcément. Donc oui, il y a des grands concerts. Oui, il y a des avant-premières de films. Bon, ça paraît évident. Et puis, ces rencontres artistiques, c'est des duos, des gens qui viennent parler dans un petit théâtre à Rochefort, le théâtre de la Coupe d'Or, ou dans l'église même maintenant, de leur rapport à l'image. Et là, cette année, par exemple, notre invité d'honneur, c'est Maxime Le Forestier, et qui vient parler. Il y a un documentaire qui a été fait sur lui, et il vient parler de ses clips. Alors, il y a quand même Jean-Paul Rouve qui a réalisé un clip de Maxime Le Forestier, Daniel Auteuil qui a joué dans un de ses clips, donc Daniel Auteuil aussi, le lien avec Maxime, qui maintenant Daniel Auteuil chante. Donc
Étienne Dao qui sera
Étienne
là
Dao,
aussi.
Étienne Dao par exemple a monté la fondation Jeanne Moreau et ça peu de gens le savent, c'est lui qui a permis que on ressorte les films de Jeanne Moreau comme réalisatrice. Donc il vient chanter, il y aura un grand concert d'Étienne Dao et donc dans le théâtre on crée ces rencontres-là. Alors au début, les gens venaient en disant « qu'est-ce que je vais voir ?» Et c'est génial, il y avait Amel Bent qui racontait comment elle a réalisé ses clips, comment elle choisissait même par rapport à son image, ce qu'on a renvoyé de son image sur elle. Et cet échange, il était dingue. Et ben ces petits temps-là qui sont à la Coupe d'Or, comme ça, toute la journée, sont devenus maintenant un rendez-vous à la fois pour les...
Et le grand public est très invité à venir.
Absolument,
vous étiez 12 000
absolument.
L'année dernière et on espère cette année encore plus. À l'affiche également Olivia Ruiz, c'est bien ça, qui va se produire sur scène et qui elle-même a joué dans des films.
Qui a fait des voix, qui avait joué Edith Piaf dans ce New Look, mais qui a écrit un livre, qui est très engagée. Donc ben voilà, c'est pour moi aussi de mettre en lumière des femmes. Alors je suis très sensible à ça, à la parité, je fais très attention. Donc il y a pas mal d'artistes, il y a Imani qui sera là ce soir-là, Clara Isée qui est absolument géniale si vous ne connaissez pas, Nash, Anna Chédid. Donc ça c'est une soirée le vendredi 28 juin. Et à côté, dans les rencontres artistiques, il y a Colline Serrault qui rencontre Pénélope Bagieux avec Camille Etienne. Ça va être une rencontre un peu surprenante où elles vont parler de leurs engagements, mais aussi parler de la musique et de l'image.
Alors le nom du festival Sœurs Jumelles ainsi que le lieu Rochefort rendent évidemment hommage au cinéma de Jacques Demy et à son film Les Demoiselles de Rochefort. Quelle est la place des comédies musicales dans votre vie, Julie Gayet?
Alors moi, je crois qu'avec mon petit frère, on connaissait absolument toutes les répliques de Grise.
Il paraît. Est-ce que vous pouvez nous le prouver? Voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce qu'il y a une réplique en particulier dont vous vous souvenez?
Non, mais c'est juste un grand bonheur que ce soit le Rocky Horror Picture Show ou là récemment West Side Story, cette histoire de bande, c'est tellement moderne et ça a été repris par Spielberg, mais il y a encore beaucoup de choses à aller chercher de ce côté-là. Donc chaque année, on a cette petite rencontre aussi sur la danse, là le hip-hop. Alors c'est aussi toutes les musiques, donc c'est autant Étienne Dao que MC Solar, parce que chaque année il y a aussi du rap,
qui complète ce jury.
Et Brosselane, enfin Chelan d'ailleurs je crois qu'on dit, m'avait corrigé un certain Médiomaïs en amont de cette émission. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une très grande scénariste et surtout elle a signé beaucoup des scénarios de son, je crois, mari Nuri Bilge Ceylan et qui notamment Wintersleep qui avait eu la Palme d'Or. Donc on est quand même sur le haut du panier des scénaristes.
Oui, moi je voudrais juste dire que mes racines libanaises sont toujours très heureuses de voir Nadine Labaki qui est née au Festival de Cannes avec Caramel qui avait été un carton et qui revient chaque année à Cannes.
Elle avait un prix à Capernaum, non?
Elle avait eu le prix du jury pour Capharnaüm.
C'était sublime.
Il y avait un
terrible.
Et maintenant on va où ? Et puis elle était, je crois, présidente du jury du Certain Regard une année.
On parle des hommes quand même.
Bien sûr. Ouais,
parce que attention, hein, y a du lourd cette année à Cannes. Déjà, on retrouve le réalisateur japonais maintes fois primé au Festival de Cannes, Kore-eda, Palme d'Or en 2018 pour Une Affaire de Famille et prix du scénario l'année dernière pour son magnifique L'Innocence. Ça.
Alors moi, je suis un peu surprise bonheur, en fait, parce que je trouve que c'est un très très grand cinéaste. Je l'aurais plus imaginé en président du jury.
Pareil.
Oui, c'est vrai.
Membre du jury. Mais bon, peut-être que c'est un début avant de le voir en présidence, mais c'est un très très grand cinéaste.
Si toi tu dis ça en grande fan de Greta Gerwig, mais c'est vrai que c'est un commentaire qui est beaucoup revenu sur, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, enfin sur X. Pourquoi
peut-être qu'il ne voulait pas, hein. Il y en a qui ne veulent pas assumer la présidence. Hein. Omar Sy aussi sera de la partie, voilà, ça c'est pour s'assurer le petit pas de danse un peu chic sur le tapis rouge. Non mais c'est génial d'avoir Omar Sy, et puis il nous a émus dernièrement dans Tirailleurs. Enfin, voilà,
non, puis le trait d'union parfait entre la France et les États-Unis, c'est-à-dire que quand même c'est un symbole Omar Sy. Donc c'est quand même très classe de l'avoir au jury.
Et alors là, franchement, merci le Festival de Cannes. Pierre Francesco.
Oh, d'accord.
Alors là, un degré de sexitude à Cannes.
En plus, j'ai dit nostalgia.
Pardon si mon mari écoute, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup Pierre Francesco Favino. Habitué également de Cannes, hein, il a joué dans Traître, hein, de Marco Bellocchio, encore de nostalgia. Perrine, elle est contente.
Ouais, nostalgia que j'ai cité en début d'émission, c'est comme vrai. Quoi tout est lié. Et c'est vrai qu'il n'a même pas besoin de parler, tu le filmes, il existe.
Et l'année dernière, il nous a impressionné avec son rôle dans l'excellent thriller Dernière Nuit à Milan.
Ils avaient dit que vous ne tireriez pas.
Qui vous a dit ça ? J'ai eu pour ambition d'être une personne honnête.
Et rapidement, mais c'est quand même aussi un très très grand nom, le réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona complétera ce jury réalisateur de The Impossible. Alors, j'avais adoré ce film. Ou encore Jurassic World Fallen Kingdom.
Et surtout Le Cercle des Neiges aussi, qui est sorti récemment sur Netflix et qui était un des meilleurs films espagnols récents et qui a eu plein de Goya, donc les Césars espagnols. L'un des, je pense, les réalisateurs les plus prometteurs de sa génération en Espagne.
Spielbergien à souhait.
Complètement.
C'est très très chic tout ça. On va rester un petit peu dans la thématique de Cannes, puisqu'il y a un autre chanceux, il s'appelle Didier Alouche, et il a été invité par Kevin Costner, qui sera au Festival de Cannes cette année.
J'ai vu ça sur X.
Voici son JT d'Hollywood.
Europe 1, clap. Le JT d'Hollywood, Didier Alouche.
Salut Laurie, salut à tous. Tiens, et si je vous racontais ma vie ? Enfin, pas tout, parce que vous risquez fort de vous ennuyer, mais une journée merveilleuse, un de ces moments improbables et délicieux qu'une vie de correspondant à Hollywood nous offre parfois. C'est de plus en plus difficile, mais il arrive encore d'obtenir des scoops, des coups que les autres n'ont pas, comme aller sur un tournage de gros films, assister à une projection secrète, ou aller tourner chez l'un des plus grands noms d'Hollywood et regarder les dauphins. Ainsi, vendredi dernier, j'ai passé une bonne partie de la journée au bord de l'océan, dans la villa somptueuse de Kevin Costner. Je m'explique. Au prochain Festival de Cannes, Kevin Costner va présenter son nouveau film Horizon, An American Saga. Un projet complètement dingue, un western en 4 parties de 3 heures chacune qui sortiront à 3 mois d'intervalle, les unes après les autres. Le projet d'une vie que Costner avait en lui depuis 1988, sans arriver à le monter. Les studios le lâchant les uns après les autres. Qu'à cela ne tienne, il les fera tout seul, ces 4 films. Il les produira avec son propre argent, en hypothéquant une partie de ses terres. On ne fait jamais ça d'habitude, mais Kevin, lui, il l'a fait. Et comme je trouve ça remarquable, j'ai eu envie de faire un sujet là-dessus. D'où demande d'interview, et Kevin a dit oui. Une heure d'entretien génial où Costner porte sa passion pour son projet en bandoulière, affiche une connaissance impeccable du western et nous touche en pleurant presque quand il parle de l'honneur que lui fait Cannes de projeter son film. Un vrai bonheur cette interview. Et puis après, il m'a invité à s'asseoir sur la terrasse face à l'océan pour boire un café et regarder les dauphins qui passent. Je n'ai pas vu de dauphins, mais je n'oublierai jamais ce moment.
Je suis très jalouse, cher Didier, de ce moment que vous avez pu passer avec Kevin Costner. Merci beaucoup pour ce JT d'Hollywood. On va se retrouver dans un instant pour notre journal des sorties. A tout de suite sur Europe 1.
Ce week-end sur Europe 1.
Ce soir, de 20h à 21h, Jacques Vendroux reçoit la navigatrice Marie Tabarly.
Elle vient de remporter un tour du monde à la voile à bord du bateau construit par son père, Éric Tabarly.
Demain, à 9h moins le quart, Léa Drucker, à l'affiche du film Un homme en fuite,
est l'invitée de Julia Vignali. Et de 17h à 18h, émission spéciale.
Enrico Macias fête ses 60 ans de carrière avec Didier Barbolivien.
Bon week-end à l'écoute d'Europe 1.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagnée.
Tout est prêt pour votre déménagement, Linda ?
Non, Cerise, j'ai oublié l'assurance habitation. Avec mon budget, je peux pas payer cher et j'ai peur de pas être bien couverte.
Chez Groupama, vous pouvez économiser en moyenne 149 euros sur votre contrat habitation et profiter des mêmes garanties.
Vous savez me parler, Cerise.
Nos conseillers aussi, et ils sont disponibles en agence à moins de 15 minutes de chez vous.
Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Économie moyenne déclarée à garantie équivalente par des clients ayant souscrit en 2022. Étude Ipsos 2023. Plus d'infos sur groupama.fr.
40 ans de regard incisif sur l'Amérique. C'est ce que propose le musée Mayol en présentant une grande rétrospective de l'artiste américain Andrés Serrano. Plus de 80 photographies révèlent une Amérique aux mille facettes. Religion, sexe, pauvreté, racisme, Andrés Serrano explore tous les tabous de son pays. Andrés Serrano, portrait de l'Amérique, une exposition au musée Mayol à Paris. Un partenariat Europe 1.
Articulé. Je vous l'ai déjà dit sur scène, articulé.
Chantal, je veux bien vous donner la réplique, mais bon...
Taisez-vous, arrogant, écoutez-moi.
Bah oui, mais...
Jacqueline, découvrez le plus grand choix de pergola pour un confort maximal. Pergola bioclimatique. Toits ouvrant aux lames orientales. Et voilà.
Akena, la reine des vérandas.
Et les pergolas.
Europe 1.
19h, 20h.
Clap. Laurie Choleva.
Et nous sommes de retour pour Clap, votre rendez-vous cinéma sur Europe 1 avec Perrine Kenson et Mehdi Omaïs, nos journalistes cinéma. On va tout vous dire sur les films à découvrir ce week.
Il fait que des conneries. Il va faire que des mauvaises décisions. Et c'est un très mauvais choix parce que personne lui en aurait voulu dire qu'il était juif. Enfin, juste de ne pas le dire ni de le cacher.
Mais c'est ça.
Et mais... il fait que des conneries au début. Et il va se faire comme un bisu qui arrive dans la cour du collège au début. Il va se faire boulbéter par ses co-détenus. Et petit à petit, va naître une autre histoire et on va apprendre beaucoup de choses.
Dès le départ, hein, il a des choix compliqués à faire.
Ici, c'est le quartier des arrivants. Il passe la nuit ici pour s'adapter à son nouvel environnement. Et après, on l'envoie au bâtiment à côté. Donc, il me reste deux places. C'est soit avec un toxico qui a brûlé son matelas ou un gitan qui a décapité un mec. Il choisit quoi ? Capitaine Flamme ou Highlander ?
Je vais prendre la chambre avec le gitan.
C'est des cellules, pas des chambres.
Ah oui.
Neuilly, Poissy le 8 mai au cinéma, notre coup de cœur sur Europe 1. Max Boublil est à mes côtés. C'est pas évident hein, de faire une comédie sur le milieu carcéral.
Non, c'est pas évident.
Et de surfer sur tous ces clichés sans que ce soit lourd.
C'est ça, c'est ça. Et surtout, moi, ça m'a permis d'apprendre que j'avais plein de choses que je fantasmais sur la prison. En fait, j'ai appris, par exemple, que pour moi, les douches, c'était très dangereux, on se faisait violer et tout. Et en fait, non, c'est pas peut-être dans les prisons américaines, mais ici, c'est un fantasme dans les douches. Et il y a plein de trucs que j'ai appris. Il y a une espèce de... C'est sûr qu'il y a des moments durs en prison, mais aussi une espèce de fraternité qui naît entre les détenus, par exemple, quand ils préparent les repas. C'est un moment convivial en fait. On sait pas ça qu'il y a des moments conviviaux en prison.
J'avais du mal.
Ouais, que ça peut bien. Enfin, il y a quand même des moments de chair. Il y a des moments de rigolade forcément entre les détenus. Et c'est plein de trucs pour moi que j'avais fantasmé plein de trucs et j'ai appris plein de choses.
On se tape pas dessus forcément de toute la journée
non,
en prison. Voilà.
Non.
Et justement, le film joue sur tous ces clichés autour de la prison et nous montre qu'on peut rire de tout parce que c'est aussi un film sur les communautés, sur les religions. Voilà, un sujet très compliqué surtout aujourd'hui.
C'est un sujet très compliqué et surtout on se moque de tout le monde dans ce film, on se moque des clichés que chacun a sur les autres, que les juifs ont sur les musulmans, que les français ont sur les juifs, que les musulmans ont sur les juifs et sur les catholiques, enfin on se moque de tout ça et ce qui compte c'est à la fin on sort un joli message de fraternité. Mis à part ça, c'est un film quand même où on rit beaucoup.
Voilà. On rit énormément. Ouais. Et alors, Max Boublil, pour reprendre l'une des phrases du film, hein, c'est vrai que c'est un film qui se concentre sur ce qui rassemble et non ce qui divise les communautés.
Ouais, ça c'est Grégory Boutboul qui. En fait, c'est Junio qui le dit dans le film. Il dit à se concentrer sur tout ce qui nous divise, on oublie tout ce qui nous rassemble. Et c'est Grégory Boutboul qui la ressort régulièrement.
Le réalisateur
il s'est pris genre pour Martin Luther King avec cette phrase. Il la ressort à toutes les sauces. Je lui dis frère, c'est bon, ça y est, c'est fini. Tu l'as dit 5 fois.
Mais en même temps, c'est bien de le rappeler, surtout en ce moment, cette période de tension communautaire quand même en France et partout dans le monde. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi osé de sortir ce film quelque part.
Bien sûr.
tournée avant.
Qui a été tournée avant, et aujourd'hui ça prend un autre écho, mais il faut... c'est vrai que nous vraiment c'est un message de fraternité qu'on veut faire passer. Il faut savoir que par exemple Rabbi Jacob était sorti pendant la guerre de Kippour, et il y avait carrément une prise d'otage pour pas que le film sorte, il faut savoir. De Funès avait peur d'être taxé d'antisémite au moment de Rabbi Jacob. C'est souvent les films qui font écho comme ça, de comédies qui font écho à ces trucs, c'est sorti en pleine crise. Et là, écoute, en tous les cas, ça fait plaisir aux gens de voir tout le monde rire ensemble. Nous, c'est vrai que dans les salles, il y a beaucoup de catholiques, de français et tout. Et ça leur fait du bien aussi de voir les juifs et les musulmans en paix, je te jure. Il y a les gens, ils viennent nous voir, ils nous disent à la fin, ça fait du bien, c'est une boule d'oxygène en fait. Parce que nous, voilà, on n'a pas envie de vous voir vous taper dessus, quoi.
Et c'est vraiment ça, hein, Neuilly-Poissy, c'est vraiment un film sur le vivre ensemble, d'ailleurs, dans cette prison. C'est vraiment une petite société avec plein de personnages. Ouais. C'est un film de bande.
C'est un film de bande, et pour moi, outre la religion, outre la prison, c'est l'histoire d'une bande de copains, quoi.
Bah
ça,
oui.
ça me fait penser au collège, moi. La prison, ça me fait penser au collège, je te jure.
On va vous envoyer en prison, comme ça, si vous êtes un peu nostalgique de vos années collège.
Non, mais je te jure, parce que même au début du film, Steve Tiancheu et Malik Amraoui, oui, qui sont mes collègues, au début du tournage.
Donc, co-détenus, ouais, et maintenant vos potes.
Mes potes maintenant, mais au début du tournage, ils m'avaient pas forcément. Ils étaient entre eux. Et moi, j'étais un peu mis à part. Par exemple, ils bouffaient entre eux, ils rigolaient entre eux à la cantine. Moi, j'étais un peu tout seul.
Vous allez faire vos preuves.
Non, mais ce qui est bien tombé, c'est qu'on a tourné dans l'ordre chronologique et que le film est tourné dans ce temps-là. Donc vraiment, ils me bolossaient au début. Et je te jure, c'était tellement triste. Je vous jure que c'est vrai, c'est une vraie anecdote, que quand je mangeais tout seul à la cantine, Claudia Tagbo, elle a eu de la peine, elle est venue et moi, je me suis dit au début du tournage, mais Claudia Tagbo, elle est trop gentille. Et en fait, j'ai appris après qu'elle a dit au réal, non mais j'allais bouffer avec Max parce qu'il me faisait de la peine, il était tout seul.
J'adore Claudia Tagbo. D'ailleurs, elle est géniale dans le film.
Cette gardienne de prison magnifique.
Voilà, innocent. Merci, merci. L'innocent, voilà, comme moi. Voilà, je kiffe cette émission. Le camp, ils m'ont fait la même à mon procès. La vie de ma mère. Ils ont ramené un mec, il a commencé à dire, ouais, je l'ai reconnu. C'est lui qui a braqué. Qui j'ai braqué, sale bâtard? Qu'est-ce que tu m'as reconnu? J'avais une cagoule, tu sais pas.
Voilà, on a entendu justement vos co-détenus. On venait d'en parler, Max Boublil, dans le film. Ouais. Neuilly-Poissy, Steve Tiancheu qui jouait le maire dans Les Misérables.
Ouais.
Qui est super et magnifique.
Grand acteur. Le mec qui joue le maire dans Les Misérables, il me donne la réplique pendant tout le film et tout. Je suis gratifié. Malik Amraoui, qui jouait sûrement dans la rue en bas de chez lui. Non, c'est pas vrai. Il a fait plein de films. Il a fait Vermine, je crois. Il a fait l'Abbé Pierre. Il avait un rôle dans l'Abbé Pierre et tout. Donc c'est... Non, mais j'étais un peu impressionné par Steve Tiancheu, moi.
J'ai vu Les Misérables.
Il a un physique, il a une façon de parler. Moi, je l'imite super bien, Steve Tiancheu, mais il faut le connaître.
Ah bah vas-y.
Il parle comme ça. Non, Boublil, il est éclaté, Max. Voilà, bon, il faut le connaître pour...
Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie alchimie entre vous. Ouais. Je vais vous faire écouter une petite séquence, Max.
Super.
Vous allez nous en parler après.
Regarde, je fais une photo avec Max.
Ah, Boulubip, Boulubip.
Hein, Max Boulubip.
Il sait. Oh, t'es un lion et tout, t'as vu.
C'est
tes copains?
Mais oui.
Oh, excuse-moi.
Oh, de merde, je suis en train de profiter de Max, moi.
Je te jure, je lâche plus Max.
Je vais faire bibi.
Non, on fait un tête-à-tête.
On a la police, quoi.
Non, arrêtez de choper. Hé, il y a la police, hein.
Ça va? Il s'embrouille.
Il s'embrouille. Faut resituer.
Ouais,
là, on comprend rien, évidemment. Mais...
Non, là, on comprend rien.
je suis tombée sur Internet.
Non, c'était sympa de mettre l'extrait, mais là, on comprend rien. Là, en fait, c'est les gars qui m'ont piégé. Alors, pendant la tournée d'avant-première, Malik et Steve ont missionné un faux gars qui fait des caméras cachées, qui faisait un faux fan qui commençait à embrouiller. Et donc, il y avait embrouille entre le faux fan et Malik et Steve qui voulaient se battre. Et moi, j'étais genre perdu. J'étais gentil, mais dès qu'ils avaient le dos tourné, j'appelais. Il y avait des fourgons de police que j'appelais comme ça. Alors les gars, ils se moquent de moi depuis, ils disent que je suis un lâche et tout, mais je suis très lâche.
Vous avez eu un peu peur?
Ouais.
En vrai.
Mais moi franchement, dès qu'il y a un problème, j'appelle la police, il n'y a pas de souci.
Ils sont là pour ça.
Bah ouais, moi je suis premier. Et c'est vrai que le fan, j'étais très hypocrite avec lui parce que je lui disais non, ça va, frère. Et dès qu'il tournait le dos, j'appelais les flics. On appelle la police.
Venez nous sauver. Il devait y avoir une bonne ambiance sur ce tournage. Pour reparler du film Neuilly-Poissy, on retrouve également Gérard Darmon, votre complice du théâtre. Et Gérard Jugnot, c'est quand même des acteurs avec lesquels vous avez grandi.
Ouais.
Et vous jouez à leur côté dans des films maintenant au théâtre. C'est
fou. Hein.
C'est fou.
Bah, Gérard Darmon, on ne se quitte pas parce qu'on joue au théâtre ensemble et on dîne le dimanche soir ensemble. Vraiment, on ne se quitte plus. Gérard, j'étais très content parce que le rôle du juge, il fallait que ça soit une figure qui soit impressionnante, qui fasse peur. Et en même temps que ça soit un juge fudge, et justement parce que le juge est fudge, et parce que moi, je me dis, tiens, comme le juge est fudge, ça va passer crème, le juge est obligé d'en faire encore plus et de me casser. C'est pour ça qu'il m'envoie en prison. Et Gérard, il le fait parfaitement bien. Mmh. Et d'un autre côté, avoir Gérard Jugnot aussi
en rabbin,
c'est magnifique.
Qui vient vous voir en prison. Et puis, vous avez, on l'a cité tout à l'heure, Mélanie Bernier. Et c'est un joli rôle de femme, hein, puisque.
C'est une femme forte.
C'est une femme forte. Au démarrage, on la voit, elle est très superficielle, on a l'impression qu'elle va jamais sans sortir. Ouais. Et puis finalement, c'est elle qui va vraiment faire survivre la société, puisque vous êtes en prison, elle doit se débrouiller toute seule.
Elle est plus forte que lui, c'est vraiment elle qui va tenir les rênes du business pendant qu'il est en prison. La fille superficielle se révèle vraiment une businesswoman, et puis c'est elle qui prend tout en charge, et c'est elle qui a tout sur le dos. Et si je peux dire un mot aussi sur Gérard Jugnot, c'est vrai qu'au début, quand je lui ai proposé le rôle du rabbin, on avait peur. On s'est dit, est-ce que ça va pas faire un peu gag? Et quand il est venu et qu'il a enfilé le chapeau, les tzitzit, qu'il a mis la veste, on s'est dit, mais en fait, ce rabbin, on le connaît.
Ouais, c'est ça.
C'est le rabbin que tu croises dans les cimetières, tu sais, qui fait les prières pour 5 euros. Tu vois celui-là ou pas? On s'est dit, mais c'est lui, en fait.
C'est lui qui traîne un peu partout. Et puis, il y a cette phrase, alors cette fois, elle n'est pas de Grégory Boutboul, le réalisateur,
mais elle est de Martin Luther King.
Elle est de Kipling.
Ah oui.
Si t'es capable de voir détruire l'ouvrage de ta vie et en un soupir te mettre à le reconstruire, alors tu seras un homme, mon fils.
Oui.
Elle est dans le film.
Ouais.
Écoutez, elle vous parle, cette phrase.
Elle me parle. Je connaissais pas Kipling. J'apprends. Voilà, j'apprends plein de choses dans ma vie en ce moment. Toutes les études que j'ai pas. Déjà, quand je suis aux grosses têtes, j'apprends plein de trucs parce qu'il y a beaucoup de questions de culture générale. À chaque fois, je ne connais pas la réponse. Donc, c'est mon éducation. Et Grégory Boutboul m'a instruit avec du Kipling, avec du Dostoïevski, parce qu'on cite du Dostoïevski dans le film, parce qu'à un moment, ils sont pour passer devant le juge. On sait que la Bible des juges, c'est Dostoïevski, donc ils commencent à lire du Dostoïevski. Tu vois, j'ai du mal à lire Dostoïevski. J'ai l'impression que c'est un joueur de,
c'est une épreuve
que
déjà.
C'est un joueur de l'équipe d'Albanie. C'est vrai, il y a du Dostoïevski, il y a du Tolstoï, il y a de tout, toute citation.
Au fond, c'est un film sur quoi alors pour vous? L'amitié?
Ouais. Pour moi, c'est un film de fraternité, c'est une bande de copains qui se crée on s'en fout finalement des religions, c'est un truc d'humain à humain et les gens vraiment sont en fait, quand on fait les projets, on se rend compte qu'ils ont envie de paix, ils ont pas envie de ces trucs, ils s'en foutent des religions, c'est des petits, tu vois, ils ont envie de voir les gens rire ensemble et nous quand on est en tournée, peu importe nos religions, on rit beaucoup ensemble.
Et ben merci en tout cas pour ce film parce qu'on en a bien besoin en ce moment de rire ensemble. Juste dernière question, Max Boublil, si vous deviez aller en prison, qu'est-ce qui vous manquerait le plus finalement?
Moi je pense que ça serait mes filles, de pas voir mes filles et ma femme évidemment. Non, parce que j'ai senti qu'il fallait quand même que j'en parle aussi.
Comme je la connais un peu, j'ai senti le.
Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est voilà, c'est de pas voir sa famille. Après, j'aimerais me faire une bande de copains comme je me suis fait dans cette fausse prison là, parce qu'elle est hyper marrante quoi.
Merci beaucoup Max Boublil d'avoir été mon invité dans Clap. Je rappelle donc la sortie de Neuilly-Poissy mercredi 8 mai. Ne bougez pas dans un instant. Emmanuel Berco vient nous parler de l'esprit coubertin. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Alors Chloé, ce nouveau travail?
Génial Cerise, mais j'ai beaucoup plus de trajets maintenant et mon fils est obligé de rentrer seul de l'école. Ça m'inquiète.
Grâce au système de télésurveillance Groupama, vous recevez une notification sur votre smartphone qui vous prévient dès son retour à la maison.
Ça c'est rassurant Cerise.
Oui, et en ce moment, Groupama vous offre les frais d'installation. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions, variables suivant les caisses régionales participantes. Plus d'infos sur groupama.fr. Europe 1,
19h-20h,
Clap, Laurie Choleva.
Merci d'être à l'écoute de Clap sur Europe 1. On continue à parler cinéma et à vous partager nos coups de cœur et notamment une comédie géniale et complètement d'actualité à l'approche des Jeux Olympiques. L'esprit coubertin, un premier long métrage de Jérémy Saint qui sera en salle le 8 mai. Pour en parler, Emmanuel Berco est mon invité. Bonjour Emmanuel, merci d'être là.
Bonjour, merci de m'inviter.
Alors Emmanuel, dans l'esprit coubertin, vous jouez une coach olympique hein, qui va sauver peut-être les Jeux Olympiques avec son poulain Paul Bosquet, champion du monde de tir, qui est joué par Benjamin Voisin. C'est surtout un film complètement barré, et c'est ça que j'ai aimé, et très tendre aussi finalement. Comment est-ce que vous le définiriez, vous ?
Comme vous.
C'est vrai ? J'ai vu juste.
C'est un film aux apparences potaches, c'est une satire où en gros tous les personnages sont restés des enfants. Mais il y a derrière ce vernis loufoque une grande profondeur sur ce qui est raconté déjà. Et puis j'ai trouvé aussi, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai